Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la Chine. Son dévissage boursier inquiète le monde et suscite beaucoup de questions sur l'ampleur du ralentissement chinois. Qu'est-ce qui arrive à la Chine? Comment expliquer que sa politique économique soit moins efficace? Crise de croissance, phase délicate d'un pays au parcours au demeurant assez exceptionnel. La crédibilité du régime chinois est-elle menacée, remettant en cause l'avenir du pacte faustien passé entre le parti et le peuple depuis les années 80? La dictature en échange de la croissance? Regard enfin sur les répercussions du ralentissement chinois sur les économies émergentes, notamment celles exportatrices de matières premières, Afrique en tête. Nos invités par téléphone depuis Tokyo, Valérie Niquet, responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Bonjour.
Bonjour.
À Paris, en studio avec moi, Jean-François Dimeglio, président d'Asia Centre. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-François Huchet, professeur des universités à l'INALCO, langues orientales à Paris. Bonjour.
Bonjour.
La Chine a donc fait cet été les couvertures de la presse internationale. Drame de Tianjin, krach boursier sont venus écorner l'image de puissance triomphante. Valérie Niquet, le modèle chinois est en crise et quelle est finalement la profondeur de cette crise?
Oui, le modèle chinois est en crise, mais la question, c'est qu'il n'est pas en crise depuis cet été, c'est que fondamentalement, c'est un modèle qui doit effectuer des réformes en profondeur pour justement arriver à passer notamment à un nouveau modèle de croissance qui serait beaucoup plus fondé sur la qualité des produits et sur le marché intérieur. Et on voit que pour des blocages qui sont essentiellement politiques, ce modèle chinois n'arrive pas justement à mettre en place des réformes qui permettraient d'assurer la pérennité du système et de la croissance en Chine, même si c'est une croissance un peu plus réduite, mais qui évidemment aurait aussi comme conséquence peut-être une plus grande ouverture politique et sociale qui viendrait menacer la toute-puissance du Parti communiste aujourd'hui au pouvoir. Alors que justement, pour ce parti communiste et pour son président Xi Jinping, la dernière des choses à envisager, c'est un effondrement de ce système politique chinois sur le modèle de ce qui s'était passé en URSS à la fin des années 1980. Donc c'est un modèle en crise, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Par ailleurs, paradoxalement, on a beaucoup glosé sur l'effondrement des bourses en Chine, sur la baisse du yuan, qui sont des réalités. Mais peut-être un peu trop, et notamment en France par exemple, où on ne fait pas partie des pays qui seraient le plus touchés par une réduction de la croissance en Chine comme on peut la voir. On s'affole beaucoup comme si soudain on découvrait les faiblesses d'un modèle, mais encore une fois, des faiblesses qui ne datent pas d'aujourd'hui. Et la grande question est de savoir si le régime saura prendre les décisions indispensables pour qu'il puisse surmonter les défis auxquels il est confronté aujourd'hui.
Alors, je vais faire réagir ici en studio Jean-François Dimeglio et Jean-François Huchet à ce que vous venez de dire, Valérie Niquet. Donc, des réformes en profondeur à faire. Jean-François Dimeglio, pourquoi le gouvernement chinois ne parvient pas à mettre en place les réformes et quelles sont finalement, c'est une question que je vous pose à tous les deux, les priorités dans les réformes, Jean-François Dimeglio?
Alors, simplement pour revenir sur le mot de crise, je suis complètement d'accord avec ce que dit Valérie, mais le mot de crise, je le réduirais uniquement à moment critique, c'est-à-dire le moment de la décision. Dire qu'on est en crise, dire que, effectivement, comme elle l'a nuancé elle-même, on est dans une situation comparable à ce qui s'est passé en Asie en 97, avec effectivement un enchaînement de problèmes, c'est pas approprié. Mais crise.
On en est loin de la, parce que la comparaison est faite.
La comparaison est faite, mais crise au sens de moment critique, effectivement, moment de la décision, ça c'est clair. Et pour revenir à votre question précisément, moi ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'effectivement, quelque chose n'a pas été fait pour prendre l'ordre des réformes qui doivent être entreprises. C'est le processus continu de réformes qui n'avait jamais arrêté jusqu'en 2000 à peu près, et qui s'est arrêté tout simplement par l'illusion que tout allait bien, peut-être aussi par le désir d'enrichissement personnel des dirigeants, comme on nous le dit aujourd'hui, c'est-à-dire les 8 à 10 ans de régime Hu Jintao ou Wenjiabao. Alors, ils sont très fortement critiqués aujourd'hui, implicitement ou explicitement, pour de bonnes raisons. Et la principale réforme, à mon avis, c'est surtout celle qui m'intéresse, mais je pense qu'elle a beaucoup de conséquences aujourd'hui, c'est la réforme du système financier en commençant à la base, c'est-à-dire un système monétaire plus construit, plus sophistiqué. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait? Probablement, effectivement, parce que les dirigeants en question, l'équipe précédente, avaient décidé de se focaliser sur de grands événements, 2008, les Jeux Olympiques, 2010, l'Expo, et puis un certain prestige à rehausser de la Chine, peut-être aussi l'enrichissement général qui a endormi à la fois les dirigeants et les populations. Le fait est que, effectivement, on se retrouve avec plus de retard que d'avance sur la progression de l'économie réelle. Donc on a un décalage entre la sophistication de l'économie et donc un système qui est maintenant très difficile à réformer, contrairement à ce qui se passait dans les années 80-90, où on sortait d'un système stalinien, on appuyait sur quelques boutons, les réformes étaient relativement faciles, à un système assez compliqué, avec une insertion dans la globalisation, dans la mondialisation qui est aussi très importante. Et il ne faut pas oublier aussi à la décharge légère de ce couple que je viens de mettre en accusation, de Hu Jintao et de Wen Jiabao, qui a eu la crise financière de 2008-2009, qui a engendré des injections de liquidités massives qui, effectivement, empêchaient la réforme financière.
Jean-François Huchet.
Oui, je pense que ce que vient de dire Jean-François Desmiglio est tout à fait exact. On sait depuis 2003-2004 que ce modèle ne pouvait pas continuer. On a perdu du temps, on le comprend d'un point de vue politique, avec le programme d'injection de liquidités qui a été fait après la crise de 2008, qui a en quelque sorte masqué aussi beaucoup de problèmes structurels qu'on avait déjà identifiés avant, sur lesquels il y avait pratiquement un consensus de la part des économistes chinois, étrangers. Et on avait eu d'ailleurs, depuis 2003, des annonces à maintes reprises de la part du Premier ministre de l'époque qui s'occupait de l'économie, Wen Jiabao, de réformes financières. Mais on avait l'impression que ça ne suivait pas. Et ça ne suivait pas pour des raisons essentiellement politiques, parce que, et on l'a remarqué à d'autres moments de l'histoire des réformes économiques, il faut avant tout qu'il y ait un consensus politique au sein du parti pour construire des décisions qui, à chaque fois, viennent remettre en cause le pouvoir du Parti communiste sur l'économie et d'un point de vue peut-être plus général sur la société chinoise. Alors on a eu des grandes dates comme 78, mais on le sait, il y avait une légitimité de la part de Deng Xiaoping pour changer le système maoïste. Il y a eu 92 ensuite, qui a été la victoire, la dernière victoire de Deng Xiaoping sur finalement les conservateurs du parti pour passer à une économie qui n'était plus socialiste, même si elle gardait le nom d'économie socialiste de marché. Et puis, on attend cette date où il y aurait finalement un nouveau consensus politique pour retrouver, si vous voulez, les bases politiques qui permettraient d'avancer sur les formes. Alors, on a cru, et on ne sait pas si 2012-2013 était justement ce moment historique, au moment où Xi Jinping et Li Keqiang sont arrivés au pouvoir, on avait l'impression, effectivement, qu'il y avait de nouveau un consensus politique pour avancer du point de vue réforme. Il y a eu beaucoup d'annonces en 2013, des annonces très importantes, et on pensait qu'on avait passé justement ce moment historique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le gouvernement chinois, je pense qu'un des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, ce sont des signaux très contradictoires que le gouvernement chinois envoie à la fois sur le plan intérieur et sur le plan international, c'est-à-dire volonté d'aller vers une économie de marché pour déréglementer une économie qui en a besoin, parce qu'il y a des poches de croissance, faut pas l'oublier, en Chine qui sont encore considérables, contrairement à ce qu'on peut dire. C'était pas une crise comme on l'a pu la connaître en Union soviétique dans les années 80, ou une crise comme la crise asiatique ou pour les économies d'Amérique latine.
Poche de croissance surtout dans le secteur des services, Jean-François Huchet.
Des services, mais même dans d'autres domaines de l'industrie. Enfin, vous avez une urbanisation très importante, vous avez encore 250 millions de personnes qui vont arriver des campagnes vers les villes. Tout ça représente des poches de croissance absolument énormes encore pour la Chine, mais il faut mettre en place ces réformes. Parce que si on ne met pas en place ces réformes, on risque d'avoir des points de sclérose, si vous voulez, du système qui vont rattraper et qui sont déjà en train de rattraper, en quelque sorte, les dirigeants chinois. Et donc, ces signaux contradictoires causent beaucoup de problèmes sur le plan interne et aussi à l'échelle internationale. On le voit, on ne comprend pas plus vraiment ce que le gouvernement chinois veut faire, vers quelle direction il veut aller.
Alors, sur le plan interne, et je me dirige vers vous, Valérie Niquet, en espérant que la liaison et nos auditeurs nous pardonneront, mais c'est vrai que c'est important d'avoir votre point de vue. Est-ce que, précisément, cette difficulté du président Xi Jinping à parvenir à un consensus politique au sein du parti pour aller plus en avant dans ces réformes, est-ce que finalement, d'une certaine manière, c'est la légitimité même du président chinois qui est aujourd'hui en cause?
Alors la question, c'est peut-être pas tellement de savoir s'il aurait un consensus au sommet pour accomplir un certain nombre de réformes. La question, c'est d'abord celle des grands intérêts acquis, ce qu'on appelle les intérêts acquis en Chine, qui protègent leurs prés carrés et qui sont souvent situés dans les provinces, qui finalement aujourd'hui font le dos rond, ne bougent pas et attendent que tout passe et qu'ils retrouvent sans problème leurs privilèges. Ça touche d'ailleurs directement aux enjeux financiers dont on a parlé tout à l'heure, puisque un des grands problèmes du système financier chinois, c'est le financement des autorités locales qui se finançaient au travers notamment de la vente ou d'accords sur les terres, qui provoquaient du mécontentement dans la population, et des systèmes de prêts bancaires qu'on appelle gris ou cachés ou illégaux, qui justement visent à contourner un système bloqué où on avait une alliance entre les grandes banques d'État, les grandes entreprises d'État et évidemment le Parti communiste. Donc la question pour Xi Jinping, c'est effectivement, est-ce qu'il peut imposer des réformes à l'ensemble du territoire chinois et à l'ensemble des intérêts acquis? Est-ce qu'il en a véritablement la volonté? C'est une question qu'il faut aussi se poser. On a dit qu'il serait un grand réformateur jusqu'à maintenant. La seule image qu'on a de lui, c'est cette fameuse lutte contre la corruption et un resserrement très très impressionnant du contrôle de l'opinion publique, notamment sur Internet ou avec l'arrestation récente de nombreux avocats. Donc il n'est pas certain qu'il soit si favorable que ça à des réformes massives qui, encore une fois, mettre en danger les fondamentaux du régime, parce que une des premières réformes qu'il faudrait évidemment faire pour stabiliser l'économie, ce serait par exemple celle de tout ce qui est système de contrôle du politique, de plus grande transparence, de meilleure gouvernance, d'un véritable système légal, et tout ça, ça remet fondamentalement en cause le pouvoir du Parti communiste, comme on l'a dit à l'instant. Donc vraiment la question, c'est de savoir, est-ce que Xi Jinping est véritablement un réformateur dans l'âme.
Alors, je pose la question à Jean-François Di Meglio. Le président chinois peut-il imposer des réformes ou en a-t-il la volonté ou n'en a-t-il pas la volonté ?
Deux choses probablement pour réagir à ça. Sur la question du consensus. Le consensus, il est en train de se forger quand même de façon autoritaire, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu probablement d'équipe plus obéissante, je ne dis pas qu'elle est 100% obéissante, mais plus obéissante ou en tout cas plus alignée. Hein, on sort d'une période où avec un politburo de 9 personnes, on avait plusieurs tendances et plusieurs origines identifiées dans le groupe au sommet. Ce qu'a fait Xi Jinping, c'est d'abord de réduire à 7 et aussi de réduire les oppositions, comme on vient de le dire, mettre au pas. Donc, si on n'a pas de consensus, en tout cas, on a un alignement. Est-ce que cet alignement, pour autant, efface toutes les difficultés à prendre des décisions? Non. J'en prendrai un exemple. La fameuse dévaluation, pseudo-dévaluation du 11 août. C'est une dévaluation et ce n'en est pas une. C'est-à-dire que contre dollar, donc la devise chinoise est passée à peu près de 6,10 à 6,40. On sait que c'est pas une dévaluation suffisante pour rendre la compétitivité nécessaire brutalement vis-à-vis de l'Europe, parce que bien sûr c'est l'Europe qui est visée avant tout. En même temps, c'est un mouvement de réforme avec un assouplissement du système de change. Il semblerait qu'il y ait eu beaucoup de discussions autour de cette mesure, qu'il y avait le parti des exportateurs décidé à pousser pour une dévaluation beaucoup plus forte, et finalement on a tranché en faveur du plus libéral probablement, c'est-à-dire le gouverneur de la Banque centrale, une dévaluation réduite avec assouplissement du système de change. Donc on demeure effectivement dans un système de débat. Deuxième point, est-ce qu'il a vraiment la volonté de réforme? Il faut pas oublier qu'il est dans son premier mandat. Alors je sais que
ça fait 2 ans qu'il est au pouvoir.
Voilà, on est en Chine, on a toujours tendance à dire ne vous inquiétez pas, ça va pas bien aujourd'hui, mais on est sûr que notre grand dirigeant va faire beaucoup mieux après-demain. Alors, je vais le dire. Parce qu'effectivement, la première équipe qu'il a constituée, c'est une équipe de vieux. Contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer. Le Politburo a vieilli par rapport au Politburo précédent. Or, ce Politburo est destiné normalement à rester 2 mandats. Donc pendant 10 ans. Probablement, on est dans la période favorable pour à la fois faire sortir les problèmes, les faire émerger, et peut-être purger les causes des problèmes. On peut rêver, je ne peux pas du tout affirmer que c'est ce qui va se passer, que dans la tête de Xi Jinping, il y a l'idée que lorsqu'on changera une grande partie du Politburo, y compris, à certains moments, on a parlé de changer Li Keqiang, hein, probablement pas, mais mécaniquement, en théorie, il y a 5 personnes qui s'en vont. On en mettra des plus réformateurs. Mmh. D'où, effectivement, une agitation colossale parmi les différents économistes, les différents responsables politiques qui pourraient monter.
Alors, moi, ce que j'entends de ce que vous venez de dire, c'est que finalement, je parlais en introduction du drame de Tianjin de cet été, le krach boursier, Jean-François Huchet, je me tourne vers vous, est-ce que finalement, ces crises, ces ruptures, ces dérapages ne seraient pas favorables au président chinois ?
De toutes les manières, il y a une volonté, bien sûr, de régler hein, un certain nombre de problèmes. On a évoqué tout à l'heure la question du financement des gouvernements locaux, qui est aussi un problème fiscal. On voit que le gouvernement chinois a déjà pris un certain nombre de mesures. Je pense qu'il faut, encore une fois, voir ce qui s'est passé depuis 1978. C'est vrai qu'au début des années 90, par exemple, quand on regardait la quantité de problèmes qu'il y avait en Chine, on avait l'impression que ça allait ensevelir les dirigeants chinois. Il fallait réformer un secteur public où il y avait des dizaines de millions de personnes en trop. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand on regardait l'immensité des problèmes, il y avait quand même beaucoup de gens qui disaient « mais ce parti communiste va-t-il être capable de réformer tout ça ?» Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a énormément de problèmes aussi. Peut-être que dans 5-6 ans, on aura la même perception finalement. Ce que vient de dire Jean-François est tout à fait exact. Il y a des moments d'accélération aussi. Ce qui a changé quand même, et Jean-François Desmilieux l'a dit tout à l'heure, c'est peut-être dorénavant la complexité des problèmes. C'est-à-dire qu'on n'est plus en face d'une économie en transition, au sens plein du terme, comme l'étaient les économies d'Europe de l'Est ou de l'ex-Union soviétique. On est en face d'une économie qui a besoin de monter en gamme sur le plan technologique, donc ça requiert toute une série de réformes.
Elle est difficile, hein, cette montée en gamme de la production chinoise.
Elle est en train de prendre place, mais ça requiert toute une série de réformes, aussi bien dans les universités, aussi bien dans la liberté aussi de penser de la part des chercheurs et dans le système économique d'un point de vue plus général. On a aussi toute la question du respect du droit, la question du traitement de l'environnement, on traverse une crise environnementale aujourd'hui en Chine qui est monumentale. On a sur les marchés financiers aussi toute une série de réformes qui sont difficiles à mettre en place. La question fiscale, il plane quelque chose dont on ne dit pas le nom parce qu'on ne peut pas le prononcer, c'est la question du fédéralisme en Chine pour un grand pays, mais c'est tabou parce que le fédéralisme en Chine, ça fait penser à, pour un pouvoir qui est très centralisateur, à un certain nombre de problèmes sur le plan politique. Donc tout ça, finalement, fait remonter toute une série d'implications politiques qui sont très fortes pour le parti, et c'est pour ça, d'une certaine manière, qu'on hésite, ça bloque, on avance, on recule. Et puis, il y a tous les privilèges dont parlait Valérie Niquet tout à l'heure, toutes les rentes qui se sont développées, puisque beaucoup de personnes au sein du parti ont vécu sur la bête, on va dire, sur le secteur public. Et on a annoncé des réformes, effectivement, des grandes entreprises publiques. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on voit peu de choses poindre à l'horizon, tout simplement parce qu'il est extrêmement difficile de réformer tous ces intérêts acquis qui se sont accumulés depuis une quinzaine d'années aujourd'hui dans le secteur public. Donc, il y a une volonté d'aller de l'avant, mais on a des problèmes qui sont extrêmement complexes à résoudre et qui nécessiteraient très certainement une autre économie politique. Mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé véritablement le bon mécanisme pour faire évoluer cette économie.
Donc, une multiplicité de problèmes. Les chantiers, de ce que je comprends, de ce que vous dites les uns et les autres, sont absolument énormes. La question de la croissance chinoise, on est loin d'une croissance à deux chiffres, bien évidemment. On parle de 5%, 4%. Valérie Niquet, très rapidement, c'est assez catastrophique pour la Chine.
Je ne sais pas si c'est véritablement catastrophique, mais c'est vrai que la Chine est un pays en émergence qui n'est pas encore une puissance totalement développée et qui a donc besoin d'une croissance importante, notamment pour répondre aux besoins sociaux, la santé, la retraite, une éducation digne de ce nom et à laquelle serait liée la montée en valeur des produits exportés, par exemple, qui aujourd'hui sont des questions auxquelles la Chine ne répond pas véritablement. Donc la Chine a vraiment besoin d'une croissance importante. La dernière chose que je voudrais rapidement ajouter, c'est que la Chine nous a habitués, les dirigeants nous ont habitués, c'est remarquable pour ça, à une très grande capacité de diagnostic des problèmes auxquels ils sont confrontés, et ça depuis des années. Hu Jintao lui-même dénonçait la gangrène de la corruption.
Je vous propose, Valérie, je vous interromps sur cette prise de conscience des problèmes des dirigeants chinois. On redémarrera avec cela dans la deuxième partie de l'émission, une émission donc consacrée à la Chine. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la Chine ? Nous retrouvons nos invités, Valérie Niquet, Jean-François Desmilieux et Jean-François Huchet dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur la Chine, son dévissage boursier inquiète le monde et suscite beaucoup de questions sur l'ampleur du ralentissement chinois. Nous retrouvons nos invités par téléphone depuis Tokyo, Valérie Niquet, responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique, Jean-François Di Meglio, président d'Asia Centre, et Jean-François Huchet, professeur des universités à l'INALCO Langues Orientales. Valérie Niquet, on a terminé la première partie de l'émission et j'ai dû vous interrompre. On abordait la question de la croissance chinoise, qui aujourd'hui est bien loin de ce qu'elle a été, une croissance à deux chiffres, 10-12%, voire peut-être un peu mieux. En tout cas, aujourd'hui, on est sur des perspectives de 4-5%. Vous nous disiez que l'un des points, en tout cas une trame commune aux dirigeants chinois, a toujours été d'avoir une certaine prise de conscience de la difficulté et des défis que la Chine doit affronter.
Oui, effectivement, et ça ne date pas du nouveau président chinois Xi Jinping, ses prédécesseurs aussi, à commencer par Deng Xiaoping, mais également ceux qui ont suivi, étaient capables d'une très grande capacité de diagnostic très juste sur les défis majeurs auxquels la Chine est confrontée. Mais malheureusement, on ne peut pas assimiler cette capacité de diagnostic qui dénonce notamment la corruption, par exemple, ça n'est pas nouveau, ou le manque d'efficacité du système. On ne peut pas assimiler cette capacité-là à véritablement une capacité à mettre en œuvre, encore une fois, les réformes nécessaires pour que, justement, la Chine puisse continuer à croître suffisamment pour satisfaire les besoins basiques de sa population.
Alors, Jean-François Di Meglio, la croissance chinoise...
J'avais envie, sur ce débat de la croissance chinoise, de revenir à ce que tout le monde disait en Occident l'année dernière, c'est-à-dire qu'il fallait absolument lire Piketty. Mais si on relit Piketty et ses 150 premières pages, on voit que la Chine a défié Piketty pendant 30-35 ans. Mmh. C'est-à-dire qu'elle a cru beaucoup plus vite que la vitesse moyenne qui est décrite par Piketty, puisqu'il nous dit que les 30 glorieuses en Occident sont un phénomène tout à fait exceptionnel. La Chine l'a effectivement répété, ce phénomène, mais en plus, elle a... quand même, d'une certaine façon, on réduit les inégalités. La Chine est en train d'entrer dans un modèle piquettien, si on peut dire, avec en plus le problème qu'elle ne rémunère plus le capital, parce que le capital de l'État, il n'a aucun moyen d'évaluer la rémunération dont il bénéficie. C'est un des problèmes aussi du financement de l'économie chinoise.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, autant en Occident, on est de plus en plus focalisé, probablement trop focalisé de nos jours, sur la rémunération et parfois la rémunération immédiate du capital, autant en Chine, on a tendance à nous dire depuis 30-35 ans, faisons des infrastructures, c'est pour le plus grand bien du pays, et d'ailleurs du cash, il y en a. Et ce cash, pendant très longtemps, on n'a pas demandé de compte pour savoir si son débourse, la dépense de ce cash, était rémunérée à un moment par la création de valeur. Aujourd'hui, on est un peu au pied du mur. Quelle est la création de valeur qui a été réalisée à part ce coussin de devises monumentales, 3000 milliards ou 3500 milliards de dollars sur lequel la Chine est assise et dont elle ne peut rien faire en réalité. Que voulez-vous faire d'un coussin?
Et pourtant, ce coussin fait rêver, alors il fait rêver. Contradiction.
C'est une énorme contradiction et il faudrait une espèce de tour de passe-passe extraordinaire, mais la Chine le fera. Soyons conscients que la Chine le fera, elle l'a déjà fait. Ils l'ont fait quand ils ont recapitalisé leurs banques, il y a une dizaine d'années, avant de les mettre sur le marché. Mais techniquement, c'est du cash qui est mis de côté, qui appartient en grande partie, même si c'est de moins en moins à l'État, qui est en devise étrangère, et sa réinjection dans le système voudrait dire une opération de change massive qui déstabiliserait le système financier mondial, et en même temps qui créerait un problème comptable, parce que c'est dans les caisses de l'État. Mais encore une fois, on n'est pas dans une comptabilité orthodoxe, donc ce sera probablement fait. Pour revenir à la rentabilité du capital, il va falloir probablement que la Chine se dote d'instruments, de mesures de la rentabilité du capital, sinon elle continuera à croître en dépensant du cash, sans savoir si ce cash crée réellement de la valeur.
Alors Jean-François Di Meglio faisait référence à Piketty, Jean-François Huchet, la question des inégalités en Chine, problème prégnant, et justement une croissance moindre, c'est aussi sur le plan social des conséquences évidentes.
Oui, alors on a eu à la fois une formidable réduction de la pauvreté, de la pauvreté absolue. D'ailleurs, quand on regarde les chiffres du millénium, on se rend compte qu'il y a une réduction très importante de la pauvreté dans le monde. Mais quand on regarde encore plus finement, on se rend compte qu'il y a un pays qui est effectivement qui a aidé à atteindre d'une certaine manière un petit peu cet objectif. C'est la Chine qui a réduit d'à peu près 650 millions de personnes de la pauvreté absolue entre 1968 et aujourd'hui. Et parallèlement, on a un accroissement formidable des inégalités à l'intérieur de la Chine entre, bien sûr, les différentes catégories sociales. Et aujourd'hui, la Chine est un des pays les plus inégalitaires de la planète, alors qu'elle était sortie, si vous voulez, d'un régime communiste où on était globalement dans des formes d'égalitarisme à outrance. Donc on est dans cette situation un peu paradoxale où on a à la fois un gâteau qui a augmenté très très rapidement et qui a donné l'illusion que tout le monde pouvait effectivement prendre une partie du gâteau. Et puis aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a effectivement toute une série de personnes qui sont laissées pour compte et qui a donné lieu, on a un peu oublié aujourd'hui, on en parle beaucoup moins, mais à toute une série de problèmes, de mouvements collectifs qui ont éclaté un peu partout en Chine. Alors, la crise, comme tout le temps, elle fait apparaître un certain nombre de problèmes. On le voit sur le plan financier, on a parlé sur le plan bancaire des prêts non performants et des mauvaises dettes, parce que justement, il y a des ce dont parlait Jean-François Desmiglio, une rentabilité du capital qui va de manière décroissante, et donc on a des entreprises qui n'arrivent plus à rembourser leurs prêts. Heureusement, on est en Chine parce que tout est public, donc on arrive toujours à s'arranger par des effets comptables. Et puis, d'un autre côté, on a des problèmes qui sont liés à la démographie de la Chine. Et c'est vrai que pour l'instant, jusqu'à présent, on a toujours voulu privilégier la stabilité sociale pour des raisons politiques. Et donc, on a d'une certaine manière échangé cette stabilité sociale contre la rentabilité du capital, parce qu'à plusieurs reprises, on a fait payer les banques, alors que ce sont des choses qui auraient été impossibles à faire aujourd'hui dans nos économies capitalistes. On aurait des banques qui auraient refusé, effectivement, de financer comme ça des entreprises qui étaient en perte. Donc on a aujourd'hui un jeu qui est difficile à continuer. Alors heureusement pour la Chine, la situation démographique s'est améliorée. On n'a plus aujourd'hui environ 18 millions de personnes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Donc ça allège en quelque sorte, si vous voulez, un peu les défis structurels pour le gouvernement chinois. Mais il n'empêche qu'on a encore énormément de personnes qui arrivent des campagnes. On a énormément de personnes qui sont laissées pour compte, qui doivent accéder, si vous voulez, à cette classe moyenne, qui souhaitent accéder à cette classe moyenne. Et c'est vrai que, pour l'instant, le modèle économique qui se présente ne donne pas, justement, encore une fois, la possibilité d'avoir une répartition plus égalitaire. Et si vous amenez sur ce paysage la corruption, eh bien, vous avez une situation, c'est vrai, qui, d'un point de vue social, est assez explosive. Et on voit poindre, depuis ces derniers mois, avec le ralentissement de la croissance, toute une série de conflits sociaux dans les usines, qu'on avait vu un petit peu en 2008, parce que vous avez des entrepreneurs qui partent, par exemple, sans régler les salaires, et vous avez des municipalités qui vont aller au charbon et, par moment, devoir payer, justement, les coûts de cette crise. Si la Chine en reste à 6-7%, ça va aller, mais si elle tombe à 4-5%, ça nous paraît effectivement très important, mais c'est une Chine qui n'est pas habituée à vivre avec 4-5% de croissance, comme l'Inde, qui a d'autres moyens, si vous voulez, de régler ses problèmes sociaux via des élections. En Chine, il n'y a pas ce genre de choses.
Alors, avant d'en venir aux questions géopolitiques, je me tourne vers vous rapidement, Jean-François Desmiglio. Dans un avenir proche, quels peuvent être les signaux qui nous permettraient soit de nous rassurer sur la Chine, ou alors d'accroître l'inquiétude qui a fait surface?
Du point de vue des décisions politiques, je crois qu'on est tous d'accord, l'affinement des mesures de protection sociale, parce que c'est le déclencheur de la consommation. Si on veut vraiment changer de modèle, il faut que, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, les vieux consomment. Aujourd'hui, ceux qui consomment en Chine, ce sont les gens qui ont entre 30 et 45 ans et qui ont de bons salaires et qui sont en ville. En Occident, ce sont les vieux qui consomment le plus. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, pour l'instant, on bénéficie encore d'un système de protection sociale. Ce sera le déclencheur. Pour l'instant, il n'est pas encore en place. Avec, d'ailleurs, la petite nuance que je me permets de faire sur la remarque démographique de Jean-François, c'est que, oui, so far, so good pour la pyramide démographique, mais c'est même pas demain, c'est ce soir que ça va très mal, parce que la pyramide démographique, c'est maintenant un parallélépipède, et donc il y a autant de jeunes que de vieux, et donc on entre dans un facteur de dépendance qui est très exactement celui du Japon en 1991, c'est-à-dire le début de la crise au Japon, dont le Japon ne s'est toujours pas sorti. Comme la Chine regarde le Japon, elle sait que c'est arrivé. Comme elle n'a pas envie d'être le Japon, elle fera autre chose.
Alors, la question géopolitique à deux niveaux. Valérie Niquet, je me tourne vers vous. Quelles sont les conséquences géopolitiques dans la région? Alors, est-ce que le Japon peut se satisfaire, mais en tout cas, voir la Chine en difficulté, peut-être qu'à Tokyo, c'est plus une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle. Vous nous le direz. En tout cas, déjà, pour commencer, les conséquences pour les économies émergentes, la chute de la demande demande en matières premières, elle va évidemment peser sur les économies africaines, je pense à l'Angola, au Nigeria, à l'Afrique du Sud, à la Zambie. Pékin pourrait évidemment limiter ses importations de cuivre, de pétrole d'Angola, du Nigeria ou encore d'or et de platine d'Afrique du Sud. Évidemment, l'effondrement du marché chinois n'est pas un bon signe pour les pays africains. Valérie Niquet.
Oui, alors oui, effectivement, et d'une manière générale, on voit que l'économie australienne est également en pâtit, les pays d'Amérique latine.
Le Brésil.
D'une manière générale, tous les pays émergents, exportateurs de matières premières, dont la croissance avait été tirée, croissance chinoise hors norme, et qui avait mis en quelque sorte tous leurs œufs dans le panier chinois, eh bien, évidemment, pâtissent de ce ralentissement de la croissance chinoise, et particulièrement du ralentissement de ce qui faisait le cœur de la croissance chinoise, c'est-à-dire les investissements massifs et mal contrôlés dans les infrastructures souvent redondantes et sans souci de rentabilité, comme l'indiquait Jean-François Dimeglio tout à l'heure. Donc si le système devient, même en limitant la croissance, mais ne serait-ce que plus vertueux, ça aura des conséquences sur les grands exportateurs de matières premières. Et donc, c'est effectivement ces pays-là qui n'ont pas tellement de solutions de rechange. Ça n'est pas l'Union européenne qui va remplacer les importations chinoises, ni même les États-Unis. Ces pays-là, évidemment, vont souffrir et ça pourra avoir aussi des répercussions sur nos propres économies, peut-être plus que directement le ralentissement de la croissance chinoise elle-même.
En tout cas, c'est une économie mondiale en difficulté. C'est cela aussi que révèlent ces difficultés chinoises. Jean-François Dimiglio, un commentaire sur la question des conséquences pour les économies, notamment africaines.
Compliqué. La Chine ayant eu un modèle très très atypique, on dit bien qu'effectivement elle représente 10 à 12% du PIB mondial. Donc un problème dans une économie qui représente 10 à 12% du PIB mondial, c'est forcément un problème en particulier pour ses partenaires directs. La géopolitique de l'économie chinoise, c'est aussi les grandes banques qu'elle a créées dans les 2 ou 3 dernières années. C'est pas seulement l'Afrique, c'est aussi l'Asie centrale, c'est aussi la fameuse route de la soie dont nous a fait grande publicité depuis un an et demi. On aurait pu penser, c'était une des interprétations, que cette projection de la Chine était non seulement une projection résultant de sa croissance économique, mais aussi de sa volonté d'être présente dans le monde. On peut penser aussi que c'est une façon de résoudre les surcapacités à la maison. Si aujourd'hui il y a un ralentissement, soit effectivement ces outils de projection de l'économie chinoise vont se développer pour permettre d'absorber ces surcapacités, soit au contraire, il va y avoir un impact dans ces pays, l'Asie centrale en particulier, et l'Afrique, puisqu'il y a une des routes de la soie, une route maritime de la soie qui va toucher l'Afrique et qui va récupérer des matières premières en Afrique, que ces pays effectivement soient affectés par le ralentissement chinois. L'une des grandes initiatives, l'une des plus emblématiques en fait, la dernière année de Xi Jinping, c'est cette projection internationale à la fois économique et géopolitique.
Alors, sur le plan régional, je me tourne vers vous, Jean-François Huchet. Davantage de tensions. Alors, cette semaine a été marquée en Chine par un grand défilé militaire pour marquer la célébration des 70 ans de la guerre de résistance contre l'agression japonaise. On a vu cette volonté dans le monde entier de marquer une puissance très forte. J'en reviens à ma question. Sur le plan régional, ce ralentissement chinois, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, qu'est-ce qui est à craindre, Jean-François Huchet?
Écoutez, je crois qu'il faut aussi regarder quelle est la structure des économies que l'on a en face. On a tout un éventail d'économies très très différentes. Vous prenez le cas du Venezuela. Il est évident que le Venezuela, qui est monoproduit et qui a misé sur les exportations de pétrole vers la Chine, d'ailleurs très souvent avec de l'argent chinois, va se retrouver dans une situation, je dirais, catastrophique. C'est déjà le cas. Mais vous avez d'autres économies qui sont quand même beaucoup plus diversifiées. Et vous avez aussi un certain nombre de secteurs au sein de l'économie chinoise qui continuent de croître. Par exemple, quand vous prenez les importations agricoles de la Chine, vous avez un développement très rapide, par exemple, de la consommation de viande qui implique que vous aurez de toutes les manières une poursuite des importations de céréales très importantes et donc des pays qui vont être beaucoup moins touchés. Donc il faut regarder aussi ce qu'on a en face dans les pays qui sont touchés par le ralentissement. Parce qu'il s'agit bien d'un ralentissement et pas d'un effondrement de la croissance chinoise. On est habitué à des croissances à plus de 10%. Là, il va falloir s'habituer à une économie qui est quand même très, très importante, mais qui croît à un rythme moins important. Donc, il faut quand même introduire un certain nombre de nuances. Et la Chine va rester tout de même un moteur, je pense, pour les économies émergentes. Le problème, c'est qu'elles se sont hyper spécialisées pour répondre aux besoins de la Chine. C'est ça un peu le problème de ces économies. Sur le plan régional, ce qui est différent pour la Chine, c'est qu'elle va, comme l'a dit Jean-François Desmilieux tout à l'heure, avec ce fameux projet de la route de la soie, elle cherche, si vous voulez, à exporter justement cette puissance économique et financière pour justement lui permettre de recycler un certain nombre de surcapacités, de faire travailler des entreprises publiques aujourd'hui qui ont du mal à travailler sur le marché intérieur, notamment sur cette grande question des infrastructures qui serait à même d'apporter de la croissance dans la région, qui est une bonne nouvelle pour un certain nombre de pays. Le problème, c'est que la Chine va devoir découvrir, comme l'ont fait les États-Unis en son temps ou un certain nombre de pays européens, comment gérer un risque politique et économique extérieur à l'économie domestique. C'est-à-dire que pour l'instant, la Chine était habituée à gérer son propre risque. Mais quand on le voit par exemple au moment de changements politiques, comme il s'est trouvé au Sri Lanka par exemple récemment, ou dans un certain nombre de pays africains, on voit qu'il y a une Chine qui ne sait pas encore justement comment gérer ce risque politique. Et il y a effectivement un risque de voir la Chine investir énormément d'argent dans un certain nombre de pays, parce qu'il y a toute une série de coteries qui lui permet, comme avec les pays d'Asie centrale, d'avoir des relations privilégiées. Puis au moment où ça change d'un point de vue politique, il faut tout retravailler, tout refaire. Et ça, c'est quelque chose que la Chine est en train d'apprendre, comme un certain nombre d'autres grandes puissances, mais ça va prendre du temps et elle risque d'y perdre beaucoup d'argent, comme le dénonce un certain nombre d'économistes chinois. Donc, j'ai envie de vous dire qu'il y a quand même une poursuite, le moteur chinois reste en place, à une vitesse moins importante. Ce qui change, je pense, c'est surtout sur le plan politique, c'est qu'on a abandonné dorénavant, si vous voulez, la doctrine, je dirais, Deng Xiaoping, de faire profil bas sur le plan politique. Et aujourd'hui, la Chine a envie, effectivement, de jouer un rôle plus important. Et elle cherche justement des voies d'entrée dans ce système international qui est quand même très largement gouverné par les États-Unis et l'Europe. Et donc, d'où la création de ces banques pour les infrastructures, les initiatives avec les BRICS, des initiatives sur le plan multilatéral dans les pays d'Asie du Sud-Est, pour essayer de contrecarrer l'influence américaine européenne. Donc on sent une Chine qui veut s'intégrer, mais qui ne veut pas non plus complètement se plier justement à ce que voudraient les Américains et les Européens.
Valérie Niquet, vu du Japon ?
Alors, vu du Japon, d'abord, on reconnaît l'importance économique de la Chine. Le Japon, c'est un des premiers partenaires commerciaux de la Chine. C'est la même chose, d'ailleurs, pour la Corée du Sud. Donc, c'est un partenaire essentiel pour l'économie japonaise qui, elle, est plutôt stagnante, comme on le sait. Donc, c'est un sujet d'inquiétude. L'autre élément, on ne se réjouit pas forcément de la réduction de la croissance chinoise en pensant que la Chine est finie. En revanche, on s'inquiète justement de cette stratégie, non pas d'intégration au système international qui serait quelque chose de positif de la part de la Chine, mais d'affirmation un peu maladroite, si le mot qu'on puisse dire, de la puissance chinoise en Asie d'une manière générale et notamment face au Japon, y compris par des gesticulations, pas directement militaires, mais enfin qui sont destinées à impressionner ou à intimider les partenaires de Pékin, et tout ceci évidemment parce que ce sont des facteurs de crise et de déstabilisation régionale inquiètent beaucoup Tokyo, ce qui explique les évolutions récentes en matière de défense de la part du Japon. Et évidemment, cette grande parade militaire que la Chine a organisée il y a quelques jours confirme Tokyo dans ce sentiment d'inquiétude face à une Chine qui connaît des difficultés intérieures, c'est plutôt comme ça que c'est analysé, et qui pourrait être tentée par l'aventurisme extérieur pour justement rétablir un peu plus solidement la légitimité du Parti communiste.
Voilà, et justement, à l'occasion de ces célébrations, vous évoquiez à l'instant le président chinois qui a annoncé la réduction du personnel militaire de 300 000 personnes. C'est aussi une conséquence de la modernisation. En tout cas, voilà, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités par téléphone depuis Tokyo, Valérie Niquet, qui est responsable du Pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique, Jean-François Desmilieux, président d'Asia Centre, et Jean-François Huchet, professeur des universités à l'INALCO Langues Orientales. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique Le Débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique reviendra sur les notions liberté et droits de l'homme face à la lutte contre le terrorisme. À demain.